La première, l'histoire continue.
Bertrand N., Hélène Maquet.
J'ai mettre un odeur dans le bois.
On le dit lourdement armé.
Les policiers ont découvert 4 lance-roquettes anti-char.
Donc c'est un militaire, évidemment, il avait accès à toute une série d'armes.
Dans les landes de Campine, dans les forêts denses du Limbourg, au pied des arbres et sous les fougères, la température a mis un mois à grimper.
Un mois pendant lequel les chiens, les hommes, les machines ont cherché sans relâche un ancien militaire qui menaçait la sécurité nationale.
En ce début d'été 2021, Jürgen Konings a été un des symboles de ces mois de Covid où la Belgique s'est fracturée.
Coup de folie d'un homme à bout de nerfs ou terrorisme d'extrême droite, l'un n'empêche sans doute pas l'autre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue.
C'est fou comme parfois certains événements nous paraissent loin alors qu'ils sont très récents. Il y a tout juste 2 ans, nous étions en pleine affaire Jürgen Konings. Nous avons l'habitude d'explorer des séquences d'actualité beaucoup plus anciennes dans cette émission, mais il nous a semblé intéressant tout de même de nous plonger dans la cavale morbide de ce militaire radicalisé. Parce qu'à la fois, c'est une époque qui nous semble révolue, celle du Covid, et en même temps, cette histoire continue de résonner très fort aujourd'hui.
Et en cette fin de printemps, début d'été, c'est la fin du Covid. Le bois de la Cambre à Bruxelles est occupé par des manifestations anti-gouvernement. La boum, et on sent bien que le pays est fracturé, divisé. C'est à ce moment-là qu'un militaire s'échappe avec des armes et menace un célèbre virologue. Il parle aussi de faire sauter des mosquées.
Cette cavale va faire apparaître des manquements de l'armée et du service de renseignement militaire, le SGRS. Comment est-il possible qu'un membre de l'armée que l'on sait radicalisé aux idées d'extrême droite ait pu voler tranquillement des armes et projette de commettre des attentats? C'est la question qui s'est rapidement posée. Pour revenir sur cette histoire qui dit beaucoup du monde dans lequel nous vivons, nous avons invité Louis Collard, journaliste au pôle police-justice du Soir. Bonjour Louis.
Bonjour.
Vous avez suivi cette affaire. Pourquoi, selon vous, et est-ce que, selon vous, ça vaut la peine de revenir sur cette affaire aussi rapidement? Finalement, Jürgen Konings, c'était jamais qu'il y a 2 ans.
C'est jamais qu'il y a 2 ans. Les conséquences, elles, notamment pour l'armée et en particulier pour le service de renseignement militaire, elles sont toujours très actuelles. Les réformes sont toujours en cours, avec un recrutement aussi qui doit continuer et s'accélérer pour ce service-là. Beaucoup de leçons à tirer de cette affaire, et à la fois sur la problématique de l'extrême droite à la Défense ou ailleurs d'ailleurs, elle s'est évidemment pas arrêtée avec le décès de Jürgen Konings et la fin de cette affaire. C'est des questions toujours très actuelles. Je pense que c'est quand même une bonne chose de revenir sur ce dossier-là.
Et dans cette émission, nous recevrons également Benjamin Billard, spécialiste de l'extrême droite au CRISP, le Centre de Recherche et d'informations sociopolitiques. Mais tout de suite, on se plonge dans nos archives.
juin 2021. Ce dimanche matin, les sentiers sablonneux du Plateau-Lindenberg sont encore relativement frais. Même si le fond de l'air le dit déjà, la chaleur va grimper sur la Flandre. Nard Houben file avec son VTT électrique entre les fougères et les broussailles qui viennent envahir les chemins. Casquette de cuir sur ses cheveux roux attachés dans la nuque, petit foulard serré sur son large cou, t-shirt et pantalon militaire, ce chasseur est parti voir un de ses amis, auquel il compte acheter une arme de chasse.
Je vais chez un ami de moi pour acheter une arme de chasse. Et je dis à lui, je vais mettre une odeur dans le bois.
Il y a une drôle d'odeur dans le bois. Et Nard Houben, alors qu'il roule sur son VTT, se demande de quoi il peut bien s'agir. Sur son vélo, il se promet de repasser dans le coin à son retour. En ce dimanche matin, il y a déjà un peu de monde qui roule dans le Dielserbos, coin de la Haute Campine où le VTT est roi. Il faut dire que cette dernière année, marquée par le Covid, a ramené toutes sortes de promeneurs dans ces bois, dans ces landes, qui rappellent le sud de la France, autant que la Flandre profonde. Pendant ces mois compliqués, où le monde et la Belgique se sont tendus, de nombreux promeneurs ont trouvé refuge dans ces forêts denses et étendues. Depuis un mois, la région est fébrile. quadrillé par les militaires, par les forces spéciales, par les chiens, survolé par les drones et les hélicoptères. Tout a commencé le 17 mai, quand les riverains ont vu débarquer ces colonnes de militaires et de policiers.
Je suis rentré vers 18h30, 19h, après avoir été courir. Et là, je vois toute une colonne de militaires et de policiers passer. Et puis, il y en a encore d'autres qui sont arrivés par là, une voiture et un bus. Et puis, j'ai vu arriver des chiens policiers.
Dans la région, il a fallu quelques heures pour comprendre ce qu'il se passait.
Le 19h30, Nathalie Malheu.
Madame, monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. À la une de l'actualité, ce soir, une chasse à l'homme dans le Limbourg. L'individu serait lourdement armé. Écho en direct avec Benjamin Vorporten.
En ce 18 mai, un visage a fait son apparition à la une de tous les médias belges, sur une photo prise de face au format identité. Les yeux bleus regardent l'objectif, le crâne lisse et rasé de près, une barbe de quelques jours entoure une mâchoire légèrement prognate. Sur une autre photo, légèrement floue, on voit Jürgen Konings prendre un selfie face à son miroir dans un vestiaire au carrelage blanc. Torse nu, il bombe les muscles de son torse et de ses bras et exhibe les tatouages qui les recouvrent. À sa gauche, dans le bas du cadre, un sac militaire kaki. Une fois les photos montrées dans les JT, une fois la cavale annoncée, les reporters partent sur place et enchaînent les interventions en direct.
L'homme serait âgé environ 40 ans, il aurait une quarantaine d'années. On le dit lourdement armé, ancien militaire, déjà connu des forces de l'ordre, car extrémiste de droite. Le parquet nous confirme qu'il est activement recherché, car il représente une menace grave d'action violente. C'est pour cette raison que les recherches sont relativement intensives, d'autant qu'on le disait, l'homme se déplace, ce qui complique les recherches. Pour l'instant, il échappe toujours aux forces de police.
Jürgen Konings est introuvable. Ce que l'on sait, c'est qu'il est parti de sa maison. Une petite maison blanche plantée de biais le long d'une de ses rues des villages de Campine. Il a retiré 3000 euros et a déposé ses médailles militaires sur la tombe de ses parents. Ce que l'on sait aussi, c'est que le militaire est armé. Le lendemain matin, le parquet annonce qu'on a retrouvé sa voiture. Elle est abandonnée dans la réserve naturelle de Övelsven, à Dilsenstockheim. Un coin que le militaire connaît par cœur. Il a possédé un chalet dans la région.
Les policiers ont découvert 4 lance-roquettes anti-char de type Low et des munitions. L'individu est probablement encore en possession d'un armement plus léger, mais qui reste dangereux.
Jürgen Konings est armé. C'est un militaire entraîné, il semble se terrer dans les bois. Sur Facebook, il a montré ces derniers mois sa passion pour les techniques de survie dans la nature. Un dernier élément vient inquiéter les autorités. Gwendy, la compagne de Jürgen Konings, a découvert une lettre inquiétante.
Je veux que vous sachiez que j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher cela, mais je n'ai pas réussi. Je n'en peux plus et je ne veux pas continuer avec la façon dont l'avenir se présente maintenant. Je ne peux pas vivre avec les mensonges de personnes qui doivent décider comment nous devons vivre. Les élites politiques et à présent les virologues décident comment vous et moi devons vivre. Ils sèment la haine et la frustration encore pire qu'est-ce qu'elle était déjà. Je sais que je deviendrai l'ennemi de l'État. Ils me chercheront et me trouveront au bout d'un moment. Je suis prête à ça. Petit à petit, tout s'est mis en place et j'ai commencé à me préparer. Je n'ai pas peur de mourir, mais alors ce sera à ma façon. Je vivrai mes derniers jours comme je le veux.
Dans sa lettre, Jürgen Konings menace un virologue bien connu en Flandre, Mark Van Ranst. C'est d'autant plus inquiétant que dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 mai, juste après sa disparition, les enquêteurs découvrent que Jürgen Konings a passé plusieurs heures à rôder autour du domicile du virologue. Mark Van Ranst et sa famille sont directement mis à l'abri dans un endroit tenu secret. Un juge d'instruction est saisi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. Pourquoi terroriste et pourquoi Jürgen Konings t'en veut-il à Mark Van Ranst, virologue ? Dans les journaux télévisés, les spécialistes comme Thomas Dantine tentent une explication.
Alors, il faut être très prudent à ce stade parce qu'on n'a que très peu d'éléments, mais on a quelqu'un qui visiblement est connu pour des sympathies d'extrême droite. Et il faut savoir que l'extrême droite va se manifester dans l'antisémitisme, dans des propos plus généralement racistes, mais aussi dans l'antisystème, dans l'antipouvoir et dans tout ce qui va pouvoir le cristalliser, les dirigeants politiques, mais aussi dans une période telles que celles que nous connaissons, les virologues qui sont derrière les décisions qui se prennent au niveau des mesures de confinement et qui cristallisent souvent la haine et le dégoût des personnes. Et donc, ceci pourrait expliquer cela, d'autant plus que l'on sait que Mark Van Ranst a des sympathies politiques qui sont claires et qui ne sont pas du tout à l'extrême droite, que du contraire.
Parce que Mark Van Ranst est un virologue, il est aussi très présent sur les réseaux sociaux, où son franc-parler critique très souvent l'extrême droite. Et en effet, plus les heures avancent, plus on comprend qui est Jürgen Konings et quelles sont ses opinions politiques.
Oui, Jürgen Konings est militaire depuis près de 30 ans, un parcours sans histoire comme fusillé sniper. Il a été déployé en mission, il a ensuite intégré la police militaire. C'est en 2019 qu'il est repéré par le SGRS, le Service Général du Renseignement et de la Sécurité, pour sa proximité avec des mouvements d'extrême droite. L'état-major porte plainte parce que l'homme a tenu des propos racistes. Jürgen Konings reçoit 4 jours d'arrêt. En 2020, il intègre un service d'instructeur chargé de préparer les missions à l'étranger. C'est à ce moment-là qu'il a accès à des armes et à des munitions. Et puis, il y aura ensuite ces menaces sur les réseaux sociaux, l'enquête approfondie, et puis enfin, les événements que l'on vit aujourd'hui.
Donc l'armée sait que Jürgen Konings s'est radicalisé. Il a été placé sur la liste des personnes potentiellement dangereuses par l'OCAM, l'organe de coordination et d'analyse de la menace. Et pourtant, il a accès à des armes. Nous sommes le 20 mai et en cours de journée, on apprend que les armes en question ont été volées. La ministre de la Défense, Ludivine de Donder, le confirme.
Comme c'est un militaire, évidemment, il avait accès à toute une série d'armes. Il les a visiblement, tout simplement, volées.
Donc, depuis 3 jours, un militaire armé, radicalisé, classé potentiellement dangereux et qui menace un virologue se promène dans la nature. Mais malgré cela, il a pu voler des armes. Tout ça commence à poser de sérieuses questions. Le premier ministre Alexander De Croo tombe un peu de sa chaise.
Mais la question qui se pose naturellement, c'est une personne qui est listée sur la liste de l'OCAM, donc quelqu'un qui a des pensées extrêmes, qui a aussi des actions extrêmes. Comment se fait-il que cette personne, dans la défense, a accès à des armes et peut prendre des armes avec soi? Ce n'est pas acceptable.
Devant le Parlement, la ministre de la Défense, Ludivine de Donder, pointe elle aussi les manquements de l'armée.
Il n'est pas acceptable que ce type d'individu ait accès à des armes. Dès que ces comportements sont apparus, il aurait dû ne plus avoir accès à des armes et faire l'objet d'un suivi plus strict par sa hiérarchie militaire.
Une organisation qui est responsable de la sécurité de notre pays et de sa population doit être en état à tout moment de remplir les tâches qui lui sont assignées et d'exécuter ses procédures internes sans aucun compromis.
L'amiral en chef de l'armée, Michel Hoffmann, répond. Il rappelle qu'il y a bien des contrôles à l'armée.
Toutes les fonctions qui demandent une habilitation de sécurité, il y a de manière récurrente des contrôles qui sont effectués. Le métier de militaire, par son essence, nous fait utiliser des armes et des munitions, que ça fait partie de notre nature, naturellement, et de notre métier, et que ça comporte des risques, mais ça comporte également toute une série de procédures. Dans ce cas-ci, il faudra voir ce qui s'est passé.
Alors, que s'est-il passé? Les procédures ont-elles été respectées? La polémique enfle et Jürgen Konings reste introuvable. La police fédérale promet de quadriller les forêts de la Haute-Campine.
Ce soir, on en est au 3e jour de recherche, toujours dans ce périmètre, dans ce domaine ici, dans le Limbourg, qui est vraiment, vraiment très, très vaste, très, très difficile à fouiller. Le terrain est accidenté, le terrain, il est compliqué. On a décidé que chaque centimètre carré devait être fouillé parce que le but est vraiment de retrouver cette personne qui représente un danger pour le citoyen, pour tout le monde et même pour elle-même.
Le terrain est terriblement difficile. Les policiers, les militaires, les chiens piétinent. Les forêts sont denses, les sols sont recouverts de fougères et de ronces. Plus les jours avancent, plus il fait chaud. En plus, dans la population, Jürgen Konings commence à trouver des soutiens. Un groupe Facebook où 50 000 personnes se sont inscrites et une marche est organisée en son honneur.
Ah ben oui, j'espère qu'il est encore en vie.
Jürgen avait besoin d'aide. Jürgen n'était pas un terroriste. Ça, c'est très clair. C'est le système politique qui est en faute, surtout la défense.
Jürgen n'est pas un terroriste. La faute est celle du système politique. En ce début d'été, la fatigue du Covid s'est installée. Vaccins, restrictions sanitaires, masques, distanciation sociale. La fracture dans la société belge est de plus en plus profonde et Jürgen Konings est un symptôme de ça. Le 4 juin, après plus de deux semaines de fouilles intenses, les recherches sont interrompues. Elles reprendront quelques jours plus tard, après la découverte d'un sac à dos rempli de munitions.
Les enquêteurs veulent à présent explorer toutes les pistes et la fouille de cette fin d'après-midi en est une parmi les autres. Alors est-ce que Jürgen Konings est toujours dans ce parc national de la Haute-Campine ? Impossible de répondre.
Le 20 juin, quand Nard Uben, le chasseur, reprend son VTT en partant de chez son ami où il voulait acheter un fusil de chasse, il est loin d'imaginer ce qui va lui arriver. Il est midi. La chaleur est plus forte que le matin. Il reprend la Skerbergstraat et s'arrête quand l'odeur devient plus forte. Le chasseur dépose son vélo et grimpe un talus. De là où il se trouve, il y a une vue dégagée sur la pente douce en contrebas. Les fougères sont hautes. Nard Uben s'attend en réalité à trouver une bête morte. Quand au pied d'un arbre, il tombe sur un corps humain. Un homme qui porte une barbe et des vêtements noirs, équipé d'un riot gun, d'une arme de poing, d'une hache, d'un canif et de munitions. Le corps de Jürgen Konings est rapidement identifié. Le militaire s'est suicidé d'une balle dans la tête. Qu'a-t-il fait entre le 17 mai et le 20 juin ? Difficile à dire. Son GSM était équipé d'une application qui compte les pas. Les derniers pas ont été enregistrés le 18 mai, le lendemain de sa disparition. L'application a enregistré 800 pas, c'est la distance entre le pied de l'arbre où le corps a été retrouvé et l'endroit où Jürgen Konings a abandonné sa voiture.
La première, l'histoire continue.
Alors Louis Collard, je rappelle que vous êtes journaliste au soir, vous avez suivi cette affaire Jürgen Konings. Peut-être d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, on est certain que Jürgen Konings s'est donné la mort d'une part et qu'il s'est donné la mort rapidement après sa disparition sans aller beaucoup plus loin que la voiture qu'il avait abandonnée.
Vous l'avez dit dans le sujet, donc il y a quelques indices qui laissent fortement comprendre que Jürgen Konings se serait donné la mort très rapidement après avoir abandonné son véhicule, donc très rapidement après le début de sa cavale en vérité. C'est cette histoire de GSM avec un podomètre dessus, 800 pas seulement qui auraient été parcourus par Jürgen Konings à l'endroit où on a retrouvé son corps. Donc c'est la distance entre sa voiture et l'endroit où on a retrouvé son corps, ça c'est un indice fort quand même. C'était un GSM d'ailleurs dont les enquêteurs ne connaissaient pas l'existence. Et donc c'est un indice de plus. Par contre, les recherches entomologiques, donc qui se fondent sur l'étude des insectes qui se développent dans un corps en décomposition, malheureusement, ont expliqué le parquet fédéral, n'ont pas pu donner de résultats très probants sur le moment de la mort. Donc ça n'a pas pu donner d'éléments concrets.
Notamment parce qu'il a fait de plus en plus chaud au fil du mois qui s'est écoulé, on l'a cherché.
Alors certainement, je suis pas scientifique, mais c'est certainement ce genre d'explication qui peut expliquer la complexité de l'affaire et puis quand même la durée potentielle de la mort. Mais il y avait quand même une fourchette de temps et la fourchette de temps correspondait effectivement à une mort qui remontait à plusieurs semaines et donc effectivement, il se serait suicidé puisqu'il s'est bien suicidé très rapidement après le début de sa cavale.
Ça, on peut raisonnablement penser qu'il s'est suicidé rapidement après. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ça ait mis tellement de temps alors à le retrouver ? Ça nous semble, allez, dans notre vision belge d'un territoire relativement étriqué, très urbanisé, un peu dingue, qu'il faille un mois pour retrouver un corps comme celui-là.
Oui, donc comme vous l'avez dit aussi dans le sujet, l'environnement, le bois où son corps a été finalement retrouvé un mois plus tard, c'est vraiment une région très forestière, rurale, il y a très peu de logements et de routes. Ça, c'est un premier élément. Mais surtout, je pense que c'est le hasard des décisions qui ont été prises pour quadriller les recherches. Et il se fait que le corps se trouvait à 150 mètres du périmètre qui a été fouillé, lui, de fond en comble.
Et puis, il se cachait aussi. Il connaissait l'endroit, il savait que c'était un endroit difficile à fouiller. C'est quelqu'un qui se cachait. C'est pas quelqu'un qui s'est perdu.
On ne saura jamais vraiment quels étaient ce que Jürgen Konigs avait en tête, puisque finalement, il se donne la mort très rapidement. Dans sa lettre que vous avez lue, il dit qu'il est prêt à mourir, qu'il sait qu'il va être recherché. Et en même temps, il n'a pas une cavale très longue, finalement.
Il ne commet aucun acte.
Il ne commet aucun acte grave, en tout cas, si ce n'est le vol des armes. Et il y a aussi une histoire où il aurait piégé sa voiture. Pas un piège très dangereux, mais avec des sortes de fumigènes, en vérité, des signaux d'alarme, des flare tips qu'il avait mis dans sa voiture et qui pouvaient s'enclencher à l'ouverture de la portière. Ce genre de système aurait pu mettre le feu à la voiture dans laquelle se trouvaient les munitions et les armes lourdes. Mais voilà, qu'est-ce qu'il avait en tête ? Alors, on ne le saura jamais. Hein.
Alors dans cette affaire, Jürgen Konigs, il y a des liens avec l'extrême droite. Quand on dit Jürgen Konigs fait partie de l'extrême droite, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Nous avons posé la question à Benjamin Billard, chercheur au CRISP, le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique.
Alors ce sont des liens en réalité idéologiques, c'est-à-dire que c'est une personne qui a appartenu, qui a été membre d'un parti d'extrême droite, le Vlaams Belang. Ce n'était plus le cas lors de l'affaire, comme on l'a qualifié rapidement, Jürgen Konigs, il y a quelques années. Néanmoins, il était encore lié à certaines organisations. Il était membre d'un groupuscule qui s'appelle Vlaams Legioen, qui idéologiquement est également d'extrême droite, mais surtout, les actes pour lesquels il était activement recherché étaient de nature d'extrême droite, c'est-à-dire qu'il visait particulièrement des symboles de l'État, le virologue Mark Van Ranst, notamment, une figure particulièrement médiatisée dans le cadre de la crise de Covid-19, mais également deux mosquées. Et là, on voit effectivement où on se situe dans ce spectre idéologique.
Ça veut dire qu'on peut dire que Jürgen Konigs est alors un terroriste d'extrême droite ?
En tout cas, il y avait une volonté, vraisemblablement, puisqu'il n'est pas passé à l'action concrètement, mais il y avait une volonté démontrée par les services de renseignement et de sécurité de passer effectivement à l'action, de commettre des crimes avec une motivation politique. C'est-à-dire effectivement qu'on peut parler à partir de ce moment-là d'un attentat terroriste qui aurait pu en tout cas voir le jour. Ça n'a pas été le cas dans le sens où c'était effectivement des actions répréhensibles pénalement, motivées politiquement.
C'est intéressant parce que ce terrorisme d'extrême droite, c'est quelque chose dont pendant des années, on n'a pas qualifié comme tel.
On n'a pas toujours qualifié comme tel. Après, c'est une réalité qui existe depuis de nombreuses années. On a connu dans les années 80, en Belgique particulièrement, des menaces terroristes d'extrême gauche, avec les cellules communistes combattantes, par exemple. Et la menace terroriste d'extrême droite, effectivement, est de plus en plus assumée aussi comme telle, de plus en plus pointée du doigt comme étant celle-ci, sans doute aussi parce que les phénomènes, les cas de terrorisme d'extrême droite, soit qui effectivement comportent des victimes, parfois humaines, soit parce qu'elles sont déjouées, mais c'est un phénomène qu'on peut observer et qui inquiète au moins depuis 2019 de plus en plus les services de renseignement et de sécurité en Belgique.
Pourquoi depuis 2019 ?
Alors c'est ce que l'on peut voir notamment dans les rapports qui ont été publiés par ces services. Par exemple, il est intéressant de pouvoir remonter un peu plus loin. En 2011, juillet 2011, c'était les attentats commis à Oslo et sur l'île d'Utøya par Anders Breivik en Norvège, là aussi avec une motivation très forte d'extrême droite. Il l'avait exprimé dans un manifeste qui faisait plus de 1000 pages à l'époque est publié en ligne. À cette période, les services de renseignement et de sécurité en Belgique indiquaient que la menace n'était pas si importante en Belgique. On voit qu'il y a une accélération, en tout cas à partir de 2019, dans le suivi opéré par ces services.
C'est intéressant que vous reveniez sur Utøya, les attentats de Christchurch aussi, hein, qui sont des attentats d'extrême droite, qui sont des attentats donc violents et qui ont à chaque fois des manifestes et qui ont une armature théorique qu'on retrouve en fait derrière chacun de ces attentats.
Effectivement, c'est souvent le cas. On a trouvé cela en Norvège, vous avez rappelé Christchurch également. Là aussi, l'auteur des attentats avait non seulement annoncé à l'avance sur des plateformes en ligne sa volonté de passer à l'action, mais aussi filmé ses propres activités terroristes lorsqu'il est passé à l'action il y a quelques années.
Est-ce qu'on peut dire que Jürgen Konings, il se place dans ce fil-là? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut le placer sur le même niveau que des Anders Behring Breivik ou que Utøya ou que les attentats de Christchurch?
Alors c'est sans doute un peu différent parce qu'il y a effectivement une motivation de nature d'extrême droite. On a dit, il visait notamment vraisemblablement des mosquées. Mais il n'y avait pas que cela. On était dans un contexte très particulier, celui de la crise sanitaire de Covid-19. Et on sait aussi que parmi ces cibles, il y avait également des symboles de l'État et le virologue Mark Van Rans. Ce qui veut dire qu'il y avait aussi un désarroi d'une certaine manière par rapport à la crise, mais certainement par rapport à la manière avec laquelle elle était gérée par les autorités publiques. Et donc, je pense que c'est un élément aussi important à prendre en compte à l'analyse.
Peut-être une dernière chose sur ces attentats terroristes d'extrême droite. On voit que c'est quand même très souvent ce qu'on appelle des loups solitaires, donc des personnes qui agissent sans avoir forcément une structure logistique autour d'eux, comme on a pu le voir par exemple pour des attentats islamistes. Ça, c'est aussi une caractéristique entre guillemets de ces attentats-là.
À l'époque contemporaine, en tout cas aujourd'hui, oui, c'est effectivement le cas. Au 19e siècle, par exemple, une organisation qui a rapidement été reconnue comme organisation terroriste d'extrême droite en Amérique, c'était le Ku Klux Klan, qui a connu plusieurs vagues dans son développement, qui commettait toute une série d'actions de nature criminelle motivées idéologiquement également, la cible étant particulièrement ceux qui avaient obtenu toute une série de droits constitutionnels dans la foulée de la guerre de sécession. Finalement, ces personnes étaient assez bien structurées. On a connu le mouvement Skinhead également dans les années 80-90, qui n'a pas tout à fait disparu d'ailleurs, mais qui commettait des actions en bande organisée, on pourrait presque dire. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on peut observer, le scénario numéro un, en tout cas, de l'attaque terroriste d'extrême droite, c'est généralement ce type de loup solitaire, comme vous le qualifiez justement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gravitent pas eux-mêmes dans une galaxie parfois beaucoup plus large, qui vient nourrir leurs propres réflexions, qu'eux-mêmes ne vont pas potentiellement en inspirer d'autres. C'était le cas de Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande il y a quelques années, qui très rapidement s'est vu félicité par une série de personnes sur les réseaux en ligne, qui parfois ont même appelé à mener à nouveau l'opération entre guillemets à l'étranger. Ça a été le cas par exemple en Grande-Bretagne. Donc ça ne veut pas dire pour autant que l'impact est isolé, que ça ne contribue pas potentiellement à accroître encore ce type d'activisme violent.
Louis Collard, vous qui êtes journaliste au soir, qui avait travaillé sur cette affaire Jürgen Konings, en tant que journaliste, cette qualification de terroriste d'extrême droite, quand on parle de Jürgen Konings, c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a questionné?
Ce qui m'a personnellement un peu étonné, c'est qu'il y avait une forme de résistance à cette qualification-là. Alors, Jürgen Konings n'est pas un terroriste dans le sens où il n'a pas commis d'actes terroristes. En revanche, on était dans une phase, lorsqu'il était recherché, qui était une phase d'alerte terroriste. Parce qu'il y avait une menace qui avait été très clairement été émise d'un acte violent. On dit toujours l'extrême droite. L'extrême droite, c'est même pas interdit d'extrême droite hein, dans notre pays. On a le droit d'être radical dans ses pensées. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est la violence qui peut l'accompagner. C'est la violence d'un projet politique. C'est pour ça que l'OCAM, donc l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, lorsqu'il disparaît avec ses armes, le classe au niveau 4, donc maximal, de la menace terroriste. C'est parce que c'est un extrémiste potentiellement violent. Et la frontière, elle se fait là. Elle se fait au niveau de la violence qui est exprimée dans sa lettre, qui est exprimée dans ses gestes aussi, parce qu'on peut rappeler que Jürgen Konings, la veille de sa disparition avec les armes, on le sait parce qu'il a borné avec son téléphone, il a borné à proximité du domicile de Mark Van Rans. Donc il avait identifié où il habitait et il a passé plusieurs heures à tout près dans le quartier de résidence du virologue. Donc il était vraiment quand même proche de commettre quelque chose d'illégal. Et ce qu'il a commis vraiment d'illégal, c'est s'enfuir avec ses armes de très gros calibre. Donc voilà, moi je dirais, ça nous a questionné l'appellation extrême droite, dans le sens où on a vu qu'il y avait une forme de résistance à l'appeler comme telle.
Une résistance de la part de, globalement, la société, une résistance de la part des autorités.
Alors, pas des autorités, en l'occurrence, mais vraiment...
Ça a été qualifié comme tel, rapidement ?
Tout à fait. Après, avec des différences. Par exemple, le procureur fédéral, peu après la disparition du Jürgen Konings, fait un appel à la télévision flamande en s'adressant à Jürgen Konings, s'il l'entendait, en lui disant... rendez-vous, vous n'avez encore commis rien de grave. Voilà, on n'imagine évidemment pas ça avec un terrorisme d'inspiration islamiste, religieux, où là, il n'est pas question de se rendre dans des conditions comme ça. On était aussi avec une personnalité clairement borderline.
C'est ça, il y a un peu cette idée, est-ce que Jürgen Konings, en gros, est en train de péter des plombs ? Est-ce qu'il n'est pas maître de ce qu'il est en train de faire ? Ou est-ce que c'est... un terroriste déterminé à commettre un attentat d'extrême droite. Est-ce que les deux, forcément, sont mutuellement exclusifs ? C'est pas certain.
Non, je ne pense pas. Il était à la fois borderline, je pense, dans sa personnalité, peut-être poussé à bout depuis longtemps, hein, parce qu'on voit ses écrits sur Facebook, etc. Ça remontait à assez longtemps, depuis le début de la crise sanitaire. Il n'en pouvait plus de cet environnement, des contraintes liées à la crise sanitaire. Il avait l'impression que les virologues faisaient la loi, lui imposaient sa façon de vivre et ça le poussait petit à petit à bout. Et depuis encore avant, il avait été repéré pour sa radicalité, son racisme, disons-le clairement. Et ça n'a pas été suffisamment suivi, je pense, par les structures de la défense, mais on va y revenir. Mais non, je ne pense pas que ce soit exclusif, en fait.
Alors, dans cette affaire, Jürgen Konings, il y a aussi la question de la radicalisation au sein de l'armée. Récemment, une série de militaires ont été écartés de l'armée parce qu'ils s'étaient radicalisés. Est-ce que l'armée est pour autant un lieu particulier de radicalisation ? On a posé la question à Benjamin Billard, chercheur au CRISP.
Alors il y en a effectivement une série, on n'en est pas dans des cas comme ça a pu être observé en Allemagne, en France également. En Allemagne, il n'y a pas si longtemps que cela, une unité d'élite a été dissoute par les autorités publiques, justement parce qu'elle était gangrénée, c'est comme ça qu'on peut vraiment le qualifier, par le néo-nazisme à proprement parler, donc une extrême droite particulièrement dure, radicale. On ne parle pas de l'extrême droite partisane qui est en phase de dédiabolisation que l'on connaît aujourd'hui.
L'extrême droite des partis, vraiment.
Voilà, même s'il y a des partis qui eux-mêmes sont néo-nazis et peuvent être violents, obdorés en Grèce par exemple. Ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, il y a une série de personnalités qui parfois rentrent dans cet extrémisme violent de droite, parfois pas nécessairement, mais qui partagent cette idéologie d'extrême droite, qui se retrouvent au sein de l'armée. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, ça ne veut pas dire que toute l'armée est d'extrême droite. Il y a quelques cas, en réalité, dans la foulée de l'affaire Jürgen Konings, le comité R en Belgique a émis un rapport où, effectivement, elle pointait du doigt toute une série de personnes qui étaient fichées pour extrémisme de droite. On ne parlait pas de centaines de personnes, on parlait de quelques individus, quelques personnes au sein des forces armées belges. Ce qui est dangereux, c'est que ce sont des personnes qui ont accès potentiellement à des armes, à des munitions. Et c'est ce qu'on a observé avec Jürgen Konings, c'est-à-dire qu'ils ont davantage de possibilités de se donner finalement les moyens de pouvoir commettre leurs méfaits.
Alors l'autre phénomène auquel on a assisté pendant la cavale de Jürgen Konings et après sa mort, c'est des groupes de soutien sur Facebook. En ligne, notamment un groupe de 50 000 personnes qui a été rapidement supprimé d'ailleurs par Facebook. Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle la fachosphère ? Donc des gens qui s'organisent en ligne ou qui ont des discussions en ligne de nature extrémiste de droite.
Alors je ne sais pas si ça directement c'était la fachosphère. La fachosphère est une réalité très présente. Il y a toute une série de groupes, de blogs en ligne où se partagent des informations de nature idéologiquement d'extrême droite qui par ailleurs vont célébrer l'anniversaire d'Adolf Hitler par exemple, de toute une série d'événements historiques comme cela. Ce n'était pas nécessairement le cas de ce groupe Facebook, de ces groupes Facebook en réalité plusieurs se sont succédés derrière les appellations No License to Kill, par exemple, pas de licence pour tuer. Il y en avait certainement qui partageaient une partie des motivations de Jürgen Konings. Toute une série d'autres personnes, en réalité, qui ont rejoint ce groupe, mais également dans la foulée des marches qui ont été organisées, qui ont rassemblé parfois plusieurs centaines de personnes. Ça ne veut pas dire que toutes étaient nécessairement favorables aux idées ou aux motivations terroristes de Jürgen Konings, mais qui, en réalité, entendaient exprimer une certaine forme de ras-le-bol démocratique. C'est un peu comme ça aussi qu'on peut l'entendre. Je ne justifie pas par là nécessairement l'organisation de ces groupes Facebook ou de ces marches, tout simplement pour essayer de comprendre la dynamique qui s'est organisée derrière cela, des personnes qui entendaient ainsi tout simplement marquer une certaine désapprobation par rapport à la manière avec laquelle la démocratie fonctionne aujourd'hui.
Un moment comme celui-là où des publics anti-système s'agrègent à l'intérieur, au sein de groupes Facebook, en ligne, sur des forums, etc. Est-ce que pour l'extrême droite, c'est une forme d'opportunité d'aller chercher là-bas de nouveaux convaincus quelque part?
Mais ça dépend de ce qu'on parle lorsqu'on évoque l'extrême droite. Si c'est l'extrême droite partisane, ça peut effectivement a priori être une opportunité. Ce qu'on peut observer néanmoins, c'est qu'elle est en quête globalement, au moins depuis le début des années 2000, à géométrie variable en Europe occidentale, de respectabilisation. On parle souvent de dédiabolisation. Et clairement, des activités de nature criminelle, fussent-elles terroristes ou non d'ailleurs, commises par des personnes, des organisations éventuellement d'extrême droite, eh bien peuvent aussi dépeindre un petit peu sur ces partis qui sont justement en train d'essayer de donner une image plus présentable d'eux-mêmes. On a pu l'observer en Norvège après les élections, après les attentats par Anders Breivik, qui effectivement n'ont pas été très porteurs pour le parti d'extrême droite principal en Norvège lors des élections qui ont suivi.
Louis Collard, on retisse avec vous les fils encore serrés qui nous relient à cette cavale et à ce suicide de Jürgen Konings, militaire radicalisé d'extrême droite, connu comme tel, fiché par l'OCAM et qui vole des armes, s'enfuit dans les bois avec son arsenal et menace de s'en prendre à un virologue à des mosquées. Cette histoire, pour la défense, a été un séisme. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
Oui, c'était un séisme et je voudrais juste rappeler en deux mots pourquoi. Parce que le cœur du problème vient du fait qu'en fait, Jürgen Konings, à la base, il est bien identifié. Ça fait longtemps qu'il est suivi. Il est suivi par la Sûreté de l'État. Il a été suivi par la police puisqu'il y avait eu une plainte de son employeur suite à des propos tenus sur Facebook. Il était même suivi par le SGRS lui-même, mais pas de très près. Et c'est ça le problème. Toutes ces informations, elles sont bien transmises à l'organe qui est censé les rassembler et fournir une analyse sur ces informations qui est l'OCAM. Lorsque l'OCAM décide que Jürgen Konings, qui est déjà fiché dans la banque de données commune, donc quand même la banque de données commune, il faut dire ce que c'est 600 à 700 individus, entités. C'était à la base le fichier des djihadistes, hein, si vous voulez, qui depuis s'est élargi et qui comprend aujourd'hui les extrémistes potentiellement violents, donc les extrémistes non religieux aussi. Jürgen Konings, il est dans cette base de données, classé niveau 2 sur 4 de la menace. L'OCAM voit toutes les nouvelles informations et décide de le passer au niveau 3. C'est le seul militaire en Belgique, à ce moment-là, qui est classé au niveau 3 de la menace. Le SGRS, à l'époque, n'a même pas pris note de l'information, du passage niveau 2 au 3. Et c'est là où vraiment le problème se situe, et c'est ça qui a créé le séisme au sein du SGRS en premier, et de la défense plus largement.
Le SGRS, pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne?
Donc c'est le service général du renseignement et de la sécurité. C'est l'un des deux services de renseignement en Belgique, à côté de la Sûreté de l'État qui est le service civil, c'est le service militaire. Ses missions sont notamment de fournir du renseignement à la défense en prévision d'opérations sur le terrain. Ça, c'est une première mission vraiment interne à la défense. Et c'est aussi de fournir du renseignement pour protéger les intérêts et les Belges, qu'ils soient militaires ou pas, à l'étranger. Ils doivent aussi, le SGRS aussi fait du renseignement sur les membres de la défense eux-mêmes, qu'ils soient civils ou militaires. Et notamment, elle doit suivre les extrémistes potentiellement violents au sein de l'armée.
Ça veut dire que si le SGRS, à un moment donné, ne réagit pas quand Jürgen Konings est placé par l'OCAM en niveau 3, en niveau de risque 3, c'est qu'il y a un vrai problème au SGRS. C'est de ça dont on se rend compte à ce moment-là.
Oui, et en fait, on s'en rend compte parce qu'il y a une crise et qu'il y a eu un manquement évident. Voilà, de qui, de combien de personnes, de la structure elle-même, c'est difficile à dire. Mais le comité R, qui est chargé du contrôle des services de renseignement dans notre pays, alertait depuis une bonne dizaine d'années et une bonne dizaine de rapports annuels sur les problèmes internes au SGRS, qui sont nombreux, qui sont liés à la structure même du service, qui fait qu'il y a un turnover très important et donc à chaque fois une perte d'expérience, un sous-effectif aussi chronique, etc. Donc ces difficultés étaient bien identifiées au SGRS depuis longtemps pour ceux qui s'y intéressaient. Le politique évidemment était au courant de ces difficultés, la défense parfaitement au courant, même s'il y a des manques d'effectifs ailleurs dans des différentes composantes de la défense, mais au SGRS notamment. Mais le problème ici, c'est qu'il y a eu une grave défaillance et forcément tout devient tout d'un coup beaucoup plus vient avec beaucoup plus d'acuité.
Alors, c'était il y a 2 ans, l'affaire Jürgen Konings. Très rapidement, avant même qu'on retrouve le corps de Jürgen Konings le 20 juin, dès la fin du mois de mai, on retrouve dans nos archives des traces de Ludivine de Donder, des traces d'Alexandre de Croo qui disent « on doit faire quelque chose, il y a un vrai problème au SGRS ». Alors, en 2 ans, Louis Collard, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelque chose a vraiment été mis en œuvre?
Alors, première chose, l'ancien responsable du SGRS a été remplacé. Ça, c'est un changement de tête qui est intervenu très rapidement. Et puis, il y a une série de réformes qui ont été lancées. Une partie concerne du recrutement. Donc, il devrait y avoir 80 membres du personnel civil et militaire en plus à terme au SGRS. Mais ça va prendre du temps parce que il ne s'agit pas de déshabiller une autre composante de la défense pour habiller le SGRS. Donc, ils prennent le temps des recrutements. Mais à terme, il devrait y avoir 80 personnes en plus. L'accès aux armes a été rendu plus sévère. Une habilitation de sécurité, Jürgen Konings avait une habilitation de sécurité, comme beaucoup de militaires d'ailleurs, ne suffit plus. Il faut des justificatifs supplémentaires. Une des réformes, ce sera notamment la mise en place de screening, donc de la personnalité et des actes posés par les membres de la défense tout au long de la carrière, pas seulement au moment du recrutement, mais tout au long de la carrière. Donc voilà, c'est un certain nombre des réformes qui sont mises en place et qui sont toujours en cours et qui doivent toujours être mises définitivement implémentées.
On va peut-être terminer avec une dernière chose. On entendait Benjamin Biard dire, depuis 2019, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'extrémisme de droite en Belgique. Il y a quelques semaines, la défense a écarté une série de militaires parce qu'ils étaient soupçonnés d'extrémisme de droite. Ça veut dire qu'il est quelque part peut-être plus important que jamais dans l'histoire de la défense d'avoir un service de renseignement comme le SGRS qui soit performant.
Oui, et donc il y a notamment un militaire qu'on appellera B, dont le soir ECNAC avait révélé le profil inquiétant en septembre ou octobre de l'année dernière, et qui vient effectivement il y a quelques semaines d'être licencié par la ministre de la Défense. Ce B, il faut le dire, il y a beaucoup de renseignements très inquiétants sur lui. Alors à la fois son extrémisme patent, il faut dire qu'il souhaitait bon anniversaire tonton le jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler par exemple. Il y a des tatouages qui montrent son extrémisme. Il est membre d'un groupe de hooligans Carolo, extrémiste lui aussi. Il y a un problème de...
Il y a un faisceau d'indices.
Voilà, en plus il avait tout un arsenal dans sa cave, a priori illégal, mais je pense qu'il y a une enquête judiciaire sur ce plan-là. Et donc cet homme a été licencié. Il faut juste souligner que s'il a été licencié, s'il y a eu une enquête approfondie sur son profil à lui, c'est aussi grâce au SGRS. Donc le SGRS, je pense, a aussi changé de mentalité depuis l'affaire Konings et s'est vraiment remis à travailler sur les profils prioritaires au sein de la défense sur lesquels il faut travailler, que ce soit d'extrémisme religieux ou non religieux.
Merci beaucoup Louis Collard d'avoir été avec nous. On comprend avec vous à quel point c'est important de se replonger dans cette affaire Jürgen Konings, comment elle a évolué aussi et pourquoi c'est important d'avoir un service de renseignement qui fonctionne à l'armée. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la SONUMA, une émission réalisée par Jonathan Remy.